Nous sommes au Bono avec Alain Brûlé, qui est un puits de connaissances sur l'huître plate en rivière du Bono.
Bien, donc Alain Brûlé, moi j'ai 71 ans, je ne suis pas né au Bono, mais j'avais un grand-père natif du Bono. Moi, gamin, donc on va dire fin des années 50, années 60, tous les ans, je venais passer au moins un mois avec mes grands-parents, et pour moi ici, c'était le paradis. Moi, c'était la dimension humaine qui m'épatait, parce que autour de chez mes grands-parents, il y avait un ancien capornier, il y avait un patron de pêche, il y avait un lieutenant au commerce, il y avait un bosco au commerce, il y avait des matelots à la pêche ou au commerce. Enfin bon, voilà, il y avait un ostréiculteur, un monde maritime que je trouvais extraordinaire. Tout le monde se connaissait, je trouvais ça formidable. À 15 ans. Donc 15 ans, pour moi, c'est symbolique parce que c'est 1968. Je n'ai pas rêvé d'aller élever des chèvres dans le Larzac ni fumer du hashish à Katmandou. Moi, je rêvais de m'installer au Bono. Bon, il se trouve que j'ai épousé une bonoviste issue d'une famille de pêcheurs, d'ostréiculteurs, de charpentiers de marine, enfin une des familles qui avait pas mal marqué la commune du point de vue maritime. Avec mon épouse, on a commencé à s'intéresser un peu plus au sujet et en 80, donc il y a maintenant 45 ans, on a fait la connaissance de Jacques Guillet. C'est devenu un ami, c'est toujours un ami. Et c'est lui qui nous a vraiment incités à nous plonger dans ce que l'on appelle maintenant le patrimoine maritime, l'histoire locale, etc. Ben, évidemment, ça nous a plu. Et bon, on a commencé par y mettre le petit doigt, puis après on y a mis les deux bras. Et on y a consacré énormément de temps, donc depuis plus de 40 ans.
Concernant l'huître plate au Bono, elle a d'abord commencé par la pêche sur les bancs, et ensuite l'ostréiculture est née. Est-ce que tu peux nous parler déjà de ces premières périodes, de ces premières exploitations d'huître plate
en rivière ? La première trace écrite que l'on a de l'exploitation des produits de la mer en général chez nous date de 1728. C'est ce qu'on appelle le rapport Le Maçon du Parc. Donc c'est un document extraordinaire. Le maçon du parc était un fonctionnaire du roi qui avait été chargé de faire une étude des pêches maritimes sur tout le littoral Manche et Atlantique, donc entre la frontière espagnole et puis la frontière, alors au nord, je ne sais pas trop où elle était à l'époque, du côté de Dunkerque. Il se déplace à cheval ou à pied, évidemment, à cette époque-là. Et il décrit par le menu tous les endroits où il passe, ce qu'il rencontre. Alors malheureusement, il ne décrit pas les bateaux. Par contre, il décrit les techniques de pêche et les engins. Et là, on y apprend que, au Bono, il y a déjà quelques pêcheurs qui sont probablement des pêcheurs paysans et qui s'adonnent déjà, entre autres, à la pêche à pied. Bien sûr, il y a des huîtres, mais pas que. Il y a des palourdes, des coques, des couteaux, des praires et j'en passe, et des meilleurs. Donc, pêcher à pied ou en bateau, à l'époque, ils parlent de râteau. On ne parle pas encore vraiment de drag. Alors, on ne sait pas non plus comment c'est commercialisé. Est-ce que c'est simplement pour de la consommation familiale, enfin de la consommation locale? La drague, alors, on en a des traces au 19e siècle, d'une drague très organisée, très encadrée. Dès le 18e siècle, les bancs d'huîtres naturels, mais pas spécialement chez nous, sur tout le littoral français, sont mis à mal par une surpêche. Il y a même, semble-t-il, les Anglais qui viennent pêcher en baie du Mont-Saint-Michel, les bancs sont mis à mal et les autorités de l'époque, elles essayent d'y faire face comme elles peuvent. Alors, on réduit la taille des engins de pêche, on réduit les durées de pêche, on oblige théoriquement à remettre à l'eau tous les individus qui sont trop petits, mais finalement, rien n'y fait, ça continue à se dégrader. Comme ici, notre rivière, elle était tapissée de façon presque ininterrompu de gisements naturels entre, d'une part, Saint-Avoy, donc en rivière du Bono, presque l'entrée de Saint-Goustan du Poulben en rivière d'Auray, et puis en allant jusqu'à Locmariaquer, puisque le dernier banc, c'était la pointe du Lézard, donc on est déjà à Locmariaquer. Et donc, voilà, il y avait des portions, on avait le droit de draguer tel jour, de telle heure à telle heure, et alors ça pouvait être des durées très courtes, trois quarts d'heure. Donc, encadré par les affaires maritimes, coup de pistolet pour, hop, ça y est, on met les dragues à l'eau. Et alors, drague exclusivement à l'aviron. Ce n'est pas voile et aviron, c'est exclusivement à l'aviron. Sur des petites embarcations, alors ça pouvait être de simples plates, donc dans ce cas-là, ils étaient deux. Ça pouvait être ce qu'ils appelaient des canottes, c'est-à-dire des bateaux en forme un peu plus grands, qui allaient jusqu'à 5, 6 mètres, sur lesquels il pouvait parfois y avoir trois rameurs et celui qui était à la drague, donc qui était chargé de manœuvrer la drague, à la main bien sûr, hein, de la relever, de la vider, etc. Et cette pêche, il y avait, donc il fallait la vendre. Donc réunion au niveau du port, le port devenait une énorme fourmilière, hein, où là, les gens qui avaient pêché vendaient leur pêche à des gens du coin, du golfe, de la partie plutôt est du golfe, qui venaient chercher ces huîtres pour les mettre sur des parcs, pour poursuivre l'élevage et les affiner éventuellement.
Donc là, il y avait déjà des parcs qui avaient été concédés pour faire de l'affinage, enfin, du grossissement.
Oui. Et puis des zones bien précises, comme les fameux marais de Ludray, où on faisait de l'affinage. Donc, alors, ça, c'était cette drague jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Pour les anciens, c'était très important parce que tout le monde y allait. Et puis, c'était un petit peu symboliquement, ça ouvrait la saison, en quelque sorte, la saison des activités maritimes. Parce que pendant l'hiver, les bateaux, les forbans, globalement, ils restaient au port. Mais la drague, elle avait lieu au mois de mars et ça marquait vraiment le début de la saison. Et puis, comme disaient les anciens, c'était le pain d'hiver. C'est-à-dire qu'avec ça, on allait payer ses dettes chez le boulanger. Alors, quant à la drague, on peut préciser quand même quelque chose, c'est que les femmes avaient le droit d'y participer. Il y avait des équipages féminins ou mixtes. Et à l'époque, moi je me souviens d'anciens qui disaient une jeune fille au Bonneau dans les, on va dire, en 1920 ou en 1930, c'était de bon ton qu'elle sache ramer. Ça allait rendre service. Hein? Alors, en parallèle, l'ostréiculture s'était déjà développée. Donc, c'était deux choses complémentaires. Et partout, ce n'est pas propre au Bonneau. On a la même chose en Charente, on a la même chose à Arcachon. Alors, c'est vrai que la rivière Doray, bah, de par la présence des gisements naturels, va être propice au captage. On va essayer différents types de collecteurs, selon les régions aussi, hein, selon les ressources. Du bois, des cailloux, de l'ardoise, des tuiles. Et il va s'avérer que la tuile, qui est pourtant pas un produit de chez nous, hein, la tuile va très vite s'avérer le collecteur le plus intéressant. Mais malgré tout, il faut la faire évoluer, cette tuile, parce que la tuile posée sur le sol, elle s'en vase, elle s'en sable, il y a des prédateurs. Donc, on va faire évoluer les choses, là, avec des expériences par chez nous, mais aussi à l'île de Ré, aussi à Arcachon. Donc, d'une part, on découvre le chaulage. Et par contre, c'est un gars de la rivière de Crac qui travaille sur l'île Cuan, et qui, lui, va avoir l'idée de percer les tuiles pour passer des fils de fer et confectionner ce qu'on va appeler le bouquet, hein, avec le piquet au milieu, hein, et de pouvoir donc placer ces tuiles, mais non pas sur le sol, en surélévation, pour quand même les mettre à l'abri de maximum de prédateurs. Au Bonneau, les choses vont se développer comme ailleurs, avec au départ ce qu'on appellerait aujourd'hui des investisseurs, des bourgeois de l'époque, où on va trouver aussi bien des commerçants, des professions libérales, des officiers de la marine d'État ou de marine marchande, etc. Enfin, des gens qui ont un peu d'argent, voire des quelques aristocrates qui sont sensibles aux idées nouvelles, parce qu'en plus, ce Victor Coste, ce biologiste qui est à l'origine de tout cela, aujourd'hui, on dirait que c'est un bon communicant. Et puis, il se trouve qu'il est bien placé au niveau du gouvernement de l'époque, puisque c'est le médecin personnel de l'impératrice Eugénie. Donc, il va pouvoir bénéficier de subsides et d'aides de l'État, par le biais de la marine, pour mettre en œuvre ses expériences et divulguer ses idées. Et ça va marcher. Donc, il y a tout un tas de gens qui ont un peu d'argent, qui vont investir là-dedans, qui vont donc créer des chantiers qui, parfois, pour l'époque, c'est-à-dire fin du 19e siècle, sont très conséquents. Alors, au Bonneau, il y en a un qui va être créé comme ça, au Rocher, enfin plus exactement dans l'anse du Paluden. Celui qui crée ça s'appelle Monsieur de Thévenard. Il est notaire à Auray et il sera maire d'Auray aussi. Donc, son affaire, apparemment, marche bien. Il fait du captage sur tuiles chaulées mises en bouquet. Ça marche bien. Mais vous vous doutez bien que M. Thévenard, notaire, ce n'est pas lui qui va mettre ses sabots pour aller dans la vase. Il embauche des gens du coin qui vont faire le boulot et qui, ici comme ailleurs, vont très vite comprendre que ce qu'ils peuvent faire pour un patron, ils peuvent le faire pour eux-mêmes. C'est d'autant plus facile que ce sont, alors Obono en l'occurrence, c'est pas vrai partout, mais Obono, ce sont des familles de marins, et donc d'inscrits maritimes, et en tant qu'inscrits maritimes, ils sont prioritaires pour avoir des concessions. Donc très vite, ils vont demander des concessions, ils vont les obtenir, ils vont commencer à construire des terre-pleins, enfin aménager la côte voilà, telle qu'on la connaît encore aujourd'hui, et ils vont se mettre à faire du captage eux-mêmes. Alors, ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Ça va monter en puissance, on peut dire, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce qu'au début, fin du 19e, même toutes premières années du 20e, les hommes sont pêcheurs et ils ont peut-être un petit peu peur au début de cette activité maritime nouvelle de l'ostriculture, peut-être un peu peur que ça nuit à leur zone de pêche. Enfin bon, ils s'en mêlent pas trop. Donc ici, localement, ça va plus être les femmes et les retraités. Et les gamins, dès qu'ils ont l'âge, qui viennent donner un coup de main. Donc ici, au Bonneau, ça va être une activité essentiellement secondaire. Petit à petit, les marins vont s'apercevoir qu'il y a quand même quelque chose à gagner en travaillant dans ce domaine, et ils vont y participer. Pendant l'entre-deux-guerres, on aura de plus en plus de marins qui... arrivés à 45, 50 ans, commencent à en avoir un peu marre de naviguer, eh bien, ils débutent, on pourrait dire, une deuxième carrière, quoi. Ils sont encore en forme et ils se mettent à faire de l'ostriculture d'une façon un petit peu plus sérieuse, un peu plus conséquente, avec un peu plus de tuiles. Hein. Bah, ils ont compris quand même que eux, ils faisaient le captage, ils vendaient leur naissain. Le naissain, ils le vendaient bien. Hein. Il y avait des courtiers donc, qui passaient, quand c'était la période, au printemps, la vente se faisait dans des bistrots, il n'y avait pas de problème, il y avait des courtiers qui venaient de loin, de Cancale par exemple, hein, qui venaient acheter du naissain ici, ils comprenaient quand même très vite que s'ils avaient pu faire une partie de l'élevage eux-mêmes, ça aurait encore été mieux. Et en 1935, ils vont obtenir la transformation en parc d'élevage d'un ancien gisement à Basquatique.
Donc, sur la rivière du Bonneau, les gens faisaient du captage, et ils faisaient uniquement du captage. Ils s'étaient spécialisés là-dedans, et donc ils vendaient le naissain à d'autres.
Oui, il y en a donc quand même un nombre non négligeable qui va prendre des concessions, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont inscrits maritimes par ailleurs, donc prioritaires, donc ils vont prendre des concessions à Basquatique, et là, ils vont faire un peu de demi-élevage. Ils vont aller jusqu'à 18 mois, 2 ans. Avant de revendre, de nouveau à des collègues qui, eux, feront la suite. Et entre autres, c'est aussi l'époque où, alors au Bonneau, pas du tout, mais dans les communes voisines, Baden, l'Armor-Baden, Aradon, les ostriculteurs partent en Bretagne-Nord. Bon, alors effectivement, quand vous voyez la géographie de notre secteur, hein, la rivière du Bonneau, la rivière Doré dans sa partie haute, elle est encaissée, il n'y a pas de zone découvrante qui vont permettre de créer des parcs d'élevage. Donc, ça va être effectivement consacré qu'au captage. Alors, le naissain qui avait été décollé, lui, il était mis dans des caisses à naissain, qui étaient des caisses spécifiques, avec un maillage, ça devait être du maillage de 5 mm, avec couvercle. On lestait tout ça avec des cailloux pour éviter les prédateurs. Et le naissain, dans ses caisses, eh ben, il allait attendre d'être commercialisé, ou éventuellement, quand... les gens du Bonneau avaient des parcs en aval, d'être emmenés sur le parc d'élevage. Mais il faut attendre après la Seconde Guerre mondiale pour qu'il y ait vraiment des familles. Et alors là, après la Seconde Guerre mondiale, c'est plutôt des jeunes couples qui vont se lancer dans l'aventure et eux qui vont faire vraiment de l'ostriculture leur métier unique. Donc voilà comment, en gros, ça s'est développé au Bonneau, avec des hauts et des bas, parce que malheureusement, il y a eu des périodes de surproduction, il y a eu des périodes de mortalité, mais en 1920, il y a eu une crise aussi importante, hein. Bon, à l'époque, qui n'a pas été, semble-t-il, vraiment expliquée, mais il y a eu une mortalité très importante, et d'un seul coup, en rivière, il n'y avait plus rien. Le seul gisement naturel qu'il restait, c'était celui de la baie de Quiberon, qui existe toujours. D'un seul coup, il n'y avait plus rien. Mais contrairement à Martelia 50 ans plus tard, Eh bien, dans les années qui ont suivi cette crise de 1920, petit à petit, c'est revenu. Dans l'après-Seconde Guerre mondiale, donc années 50, l'ostréiculture au Bonneau, c'est vrai que là, ça marche du tonnerre, il y a à peu près 150 chantiers familiaux. Ça veut dire qu'en fait, dans chaque famille, globalement, hein, on a son petit chantier, sa côte, comme on dit ici. Alors, les familles de marins, certes, presque sans exception, mais le boulanger a son chantier, il y a un instituteur qui a son chantier, il y a un menuisier, il y a un forgeron qui font aussi un petit peu d'ostréiculture. Par contre, curieusement, les agriculteurs ne s'y mettent pas. Ils auraient pu, hein. Ils l'ont fait à Baden, ils l'ont fait à Lautmariaker ou ailleurs. Ils s'y mettent pas. Bon, ils ont assez de travail dans leur ferme, mais ça n'empêche pas leurs enfants d'aller donner un coup de main, hein, d'aller participer aux travaux comme les autres jeunes. Arrive l'hiver 62-63, donc là, forte mortalité, mais ça continue quand même, hein, attention, je dis mortalité, mais l'activité continue, et ça va amener donc un certain nombre de personnes à prendre des parcs de captage en baie de Quiberon, au niveau des sables blancs.
Parce qu'il y a un meilleur captage.
Parce qu'il y a un meilleur captage, voilà. Ça va continuer jusqu'en 74, et puis là, été 74, début juillet 74, en une marée, les huîtres de parc, comme les huîtres sauvages, tout crève. C'est fini, il n'y a plus rien. Donc, bon, évidemment, c'est la stupéfaction. Alors, deux comportements. Ceux pour qui c'est une activité secondaire, bah, c'est facile à comprendre, vont arrêter. C'est la majorité. Ceux pour qui c'est l'activité principale, bah, là, c'est la catastrophe, parce que c'est leur gagne-pain qui disparaît. Donc, il faut s'adapter. Alors, s'adapter, ben, il y a deux solutions. La première, c'est toujours croire en l'huître plate et puis aller faire ça ailleurs, entre autres, en reprenant des parcs au pot, parce que les affaires maritimes, à l'époque, vont recréer de nouvelles zones de parcs, justement pour faire face à ce problème. Hein. La profession, avec les pouvoirs publics, va mettre en place ce qu'ils ont appelé le plan de relance de l'huître plate, à l'époque. Donc, on essaye différentes choses. On va aussi commencer à se mettre à la creuse. Et puis même, alors c'est très, très ponctuel, mais ça existe toujours en rivière Doré, proposer éventuellement des activités nouvelles, entre autres l'élevage de poissons. Il y a un élevage de poissons en rivière qui a été créé en 1978. Donc, ceux qui restent, eh ben, ils ont des parcs au pot, donc ils vont continuer jusqu'en 80, malheureusement 80, deuxième épisodie. Alors là, ils vont arrêter. Les dernières tuiles Cholet, c'était en 81, que je ne dise pas de bêtises. Enfin, Cholet au Bonneau. Hein. Elles sont relevées l'hiver suivant, mais elles ne sont même pas décollées. L'idée, c'était de faire un vide sanitaire. Donc, on ne décolle même pas le naissin. On les pose à terre. Et les quelques, à ce moment-là, il ne reste plus que quoi. Il reste 5-6 familles qui travaillent encore. Ceux-là, ils se recyclent comme ils peuvent dans l'huître creuse parce qu'ils ont des parcs où ils vont en prendre un petit peu plus au sud, pas loin. Baden, l'Armor-Baden, Lautmariaker, l'île aux Moines. Ça se voit plus, mais une commune comme le Bonneau a connu une période d'opulence, enfin, c'est très relatif, mais une certaine période d'opulence dans les années 60-70 quand toutes les activités maritimes dont l'ostréiculture marchait bien. Le Bonneau est devenu une banlieue de Vannes, quoi. Une cité dortoir de Vannes. Agréable à vivre, hein. Agréable à vivre, mais c'est plus. A complètement perdu sa dimension maritime. Mais ça fait un bout de temps, hein. C'est dans les années 80. Et puis en ce qui concerne l'ostréiculture, l'ostréiculture, ça n'a pas été partout pareil. Là où la Creuse pouvait bien marcher, ça a continué. Hein. Mais dans des coins comme ici, où on avait basé ça sur la plate, c'était fini aussi.